Kwe, bonjour, mais Alexis pas là, Robert Blondin. Si on sera seul aujourd'hui, mais pas vraiment seul, on a une invitée exceptionnelle dans quelques secondes. Notre invitée s'appelle Marjolaine Étienne. Elle est de Mastoyach et elle a fait l'objet d'une nouvelle extraordinaire, à mon avis. Elle a été nommée représentante des peuples autochtones du Canada au secrétariat général des Nations Unies par le secrétaire général Guterres lui-même. Bonjour, Marjolaine.
Oui, bonjour.
Vous avez été surprise ou vous le saviez que ça s'en venait?
C'était une agréable surprise, je vous dirais. Le tout remonte en juillet 2019 où j'ai passé une entrevue. Une entrevue quand même assez longue, d'une durée près d'une heure, 1h30. Et puis par la suite, bon, on fait son bout de chemin. Et puis au jour J, en décembre dernier, bon, on m'écrit effectivement que... J'ai été nommé par le secrétaire général des Nations Unies.
Ça doit vous faire plaisir. Bon, c'est flatteur personnellement, j'imagine, mais au niveau de votre engagement vis-à-vis des Premières Nations, c'est un avantage magnifique.
C'est un bel honneur, je vous dirais, une belle reconnaissance aussi. C'est une fierté pour en soi, une fierté pour ma famille, une fierté aussi pour les membres de ma communauté. C'est une fierté partagée, en fait, je vous dirais, là, d'avoir eu cet honneur, cette nomination à ce moment-ci de siéger là, à ce conseil consultatif des administrateurs du Fonds.
Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un historique? Le rapport des Autochtones, des Premières Nations d'un peu partout dans le monde, d'ailleurs avec l'ONU, est-ce qu'il y a une historique à ça ou si c'est un phénomène relativement nouveau?
Ben, en fait, j'ai en 2018 participé, j'ai été sélectionnée en 2018 à participer à un programme de formation pour les Autochtones du monde entier. Donc, une formation sur les droits en droit de l'homme avec une touche spécialité qui est au niveau de la déclaration des peuples autochtones. Donc, j'ai quitté le Canada en juin 2018 pour me rendre à Genève, poursuivre cette formation. Et puis, je suis revenue au Québec en main avec un certificat de mérite au niveau de ce programme de formation. Et puis, par la suite, bon, j'ai retourné à Genève en décembre 2018 pour assister à une session dont le comité contre la torture. Donc, c'était un petit peu dans cet esprit-là, effectivement, où j'ai été près de des Nations Unies, soit par un programme de formation, de participer là, à un comité contre la torture, et puis ainsi de suite. Bon, c'est comme ça a commencé.
Avant 2018, est-ce que l'ONU s'est préoccupée du sort des Autochtones un peu partout à travers le monde?
Ben, je vous dirais qu'avant 2018, moi, j'ai fait carrière politique dans ma communauté. Donc, à cette époque-là, je n'étais pas non plus là, dans la sphère ou dans l'univers là, de l'ONU. J'étais plutôt impliquée là, activement dans ma carrière politique à défendre les droits là, de ma communauté. Mais il reste que quand même, effectivement, je pense qu'effectivement, depuis... Je pense plusieurs années que l'ONU fait en sorte de pouvoir vraiment là, défendre les droits ou les intérêts des peuples autochtones du monde entier, incluant le Canada ou le Québec.
Bon, c'est relativement nouveau, mais il faut s'en féliciter aussi, mais il aurait pu se prendre plus tôt parce que ça fait longtemps qu'il y a un problème, hein?
Ben, effectivement, je pense que est-ce qu'il y a des moments où est-ce que ça aurait dû être fait? Tu sais, il y a quand même dans la vie des moments qui font en sorte de détailler, qui sont présents, et puis c'est de saisir les opportunités et d'aller de l'avant.
Je me souviens de certaines présences des Premières Nations à l'ONU, mais sans vouloir trop juger, ça avait plutôt une allure folklorique, disons que très sérieuse au niveau de la défense des droits de l'homme chez les Autochtones.
Ben, je vous dirais qu'à ce moment, à ce moment-là, comme je vous disais, j'étais plus ou moins présente de voir effectivement dans l'univers de l'ONU, de l'international, tout ça. J'étais vraiment là, j'avais ma lunette de femme innu, politicienne, dans ma communauté, à travailler sur les différents dossiers ou responsabilités politiques que j'avais. Et puis, dans mon univers à moi, l'ONU était comme pas là à cette époque-là. Oui, je connaissais la déclaration des peuples autochtones, mais tu sais, j'avais des mandats précis et je travaillais très fort pour les mandats politiques que j'avais.
S'il y a une représentante des Premières Nations qui est bien placée, vous l'avez dit, vous avez fait de la politique internation chez dans les Premières Nations, chez les Autochtones. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière et que vous nous expliquiez d'abord, pour ceux qui sont moins familiers, qui écoutent cette émission, comment ça fonctionne la politique à l'intérieur des nations, des Premières Nations. On n'est pas certain de toujours comprendre. On comprend à peu près ce qui se passe chez les Blancs avec le Parlement, les députés, les ministres, une opposition. Comment ça fonctionne chez les Premières Nations?
Bien, au niveau des élections chez les Premières Nations, je parlais au niveau du Canada. On sait qu'il y a quand même plusieurs communautés autochtones au niveau du Québec. Il reste quand même que chaque gouvernance des communautés autochtones est différente. Donc, pour ma communauté de Mashtoyat, il y a des élections qui se tiennent à toutes les quatre ans. Et les hommes ou les femmes qui aspirent à occuper un siège politique soumettent leur candidature. Et puis, s'en suit la campagne électorale et puis s'en vient effectivement le jour J, la journée des élections. Donc, c'est les membres de la communauté qui choisissent leurs représentants ou représentantes politiques. Mais il reste quand même que quand tu te lances en politique, ce sont des personnes humaines. Ce n'est pas des partis. Nous, ce n'est pas un parti qui vont contre notre parti. C'est plutôt des personnes individuels qui posent.
Mais est-ce que parfois il y a ces personnes-là qui représentent des groupes, tu sais, on appelait ça des states à l'époque, là, est-ce que ça existe chez les Autochtones?
Non, pas dans ma communauté, c'est plutôt par intérêt de certaines personnes, les hommes ou les femmes, qui donnent leur nom, leur candidat, pour être candidat là, à un siège politique.
Est-ce que ça crée des fossés parfois pour ceux qui ne sont pas élus?
Je vous dirais que une fois que les élections sont passées, dans mon expérience politique ou dans ma carrière politique de 15 années, je dirais que ça passe. Tu sais, je veux dire, les gens respectent effectivement le droit démocratique au niveau des membres de la communauté.
Dans le dossier Internation, là, vous êtes nommé à l'intérieur, vous êtes élu en fait à l'intérieur de votre communauté. Chez vous, ça s'appelle quoi? Un chef?
Oui, dans ma communauté, il y a un siège de chef et puis on a aussi 6 postes là, au niveau de conseiller aussi. Donc, c'est la table politique est composée d'un chef et de 6 représentants là, politiques, là, de conseillers ou conseillères.
La façon de décider quels sont les dossiers prioritaires, est-ce que c'est difficile ou si c'est des consensus qui se trouvent facilement à l'intérieur d'une nation?
Bien, au niveau des discussions politiques, je vous dirais dans ma communauté, c'est que le chef, une fois élu, fait en sorte effectivement d'octroyer des responsabilités politiques là, aux élus qui ont été élus démocratiquement. Et puis, par la suite, s'ensuit effectivement la tâche ou les responsabilités de mener les dossiers politiques avec les responsabilités politiques dévolues, d'un service, parce que comme vous savez, dans chaque communauté autochtone, dont la nôtre, on gère un ensemble de services, que ce soit l'éducation, que ce soit le service social, le service public, les travaux publics. Donc, les élus ont des responsabilités politiques à l'égard au niveau des services. Donc, à partir de lorsqu'on rentre en fonction, donc effectivement, il y a un moment d'appropriation de rencontres avec les directions et puis bon, tout bref. Mais il reste quand même que lorsqu'on apporte un dossier pour prendre une décision, il y a quand même des échanges, des discussions aussi également. Puis je pense que le fait de pouvoir mener des dossiers en discussion et de prendre des décisions tourne autour beaucoup au niveau sur le collectif.
Quand vous prenez le poste, ça ne s'appelle pas ministre, mais vous êtes, j'imagine que chaque conseil est responsable de certains mandats en particulier.
Oui, chaque conseil ou chaque élu fait en sorte effectivement d'avoir des responsabilités politiques, mais il reste que quand même, lorsque une fois élu, il y a quand même là, des séances de travail là, pour effectivement préparer un programme ou un cadre de travailler sur des enjeux politiques pour les 4 prochaines années. Donc, les discussions se font une fois quand tu es élu et puis bon, s'enligne un genre de programme qui est là pour présenter à la population et puis bon, mentionner qu'effectivement, voici les enjeux dont les élus vont travailler pour les 4 prochaines années.
Là, vous êtes là depuis un certain temps, quand même, depuis plusieurs années. Vous avez l'expérience. Est-ce qu'il se dégage dans vos campagnes électorales ou dans la façon de gérer, d'administrer une nation en particulier, un groupement? Est-ce qu'il y a des tendances qui sont, on dirait chez les Blancs, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent, même qui s'opposent parfois dans les nations autochtones?
Ça peut arriver dans certains dossiers. Je dirais pas toutes. Ou ce que bon, la plupart du temps, si c'est pas l'opposition, c'est plus un niveau de compréhension au niveau du dossier ou parfois probablement qu'il manque des éléments d'information pour prendre une décision. Donc là-dessus, effectivement, c'est pas nécessairement une opposition, mais c'est plutôt effectivement au niveau de mieux comprendre le dossier puis prendre une décision. Parce que prendre une décision politique sur un dossier, ben, dans mon expérience à moi, là, je parle pour moi, c'est une décision que je dois prendre qui a cette génération. Donc, il faut effectivement que le dossier soit effectivement assez complet pour prendre une décision qui concerne cette génération, parfois. Donc. Mais il reste que quand même, effectivement, que c'est pas tant opposition, mais comme je vous le disais, c'est vraiment plus au niveau d'une meilleure compréhension ou parfois des éléments d'information qui sont pas encore, qui complètent le dossier pour prendre une décision éclairée dans ces dossiers.
Est-ce que vos électeurs autochtones sont très politisés dans ces enjeux?
Ben, en fait, je pense que comme élu, on est imputable, donc on doit effectivement de pouvoir rendre compte à la population. Et puis bon, il y a des séances d'information quant aux décisions qui sont prises, d'aller devant le public et chaque élu doit expliquer effectivement dans les responsabilités dévolues du secteur, si on veut, là, qu'il représente, de pouvoir apporter les décisions qui ont été prises dans le cadre des dossiers.
Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour les Blancs à savoir ce qui se passe dans cette communauté qu'ils fréquentent de près parfois?
Je ne sais pas si en termes d'intérêt, je vous dirais qu'effectivement, la question se pose aussi de l'autre côté, parce qu'effectivement, il y a des mairies où bon, ils ont des décisions à prendre. Je pense qu'effectivement, le fait que les non-autochtones ont de l'intérêt aux décisions qui se prennent, je pense qu'effectivement, de mon côté, c'est que ce que j'ai pas vu, effectivement, là, certaines personnes non autochtones de venir participer à des séances où il y a la population et puis des élus pour expliquer les décisions qui ont été prises.
Vous avez mentionné que dans chaque nation, il y a un peu des structures électives différentes, un peu. C'est pas toujours pareil d'une nation à l'autre à travers tout le Canada, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Bon.
Oui.
Alors, tout le phénomène de pouvoir relier les nations, tout le problème de l'internation chez les Autochtones, vous avez touché à ça beaucoup aussi. C'est pas toujours facile, non?
Ben, en fait, c'est les enjeux, je vous dirais, se ressemblent. Les défis aussi, les enjeux et défis se ressemblent pratiquement dans chaque, pour les communautés autochtones, soit au niveau du Québec. Il y a des communautés autochtones qui sont plus isolées, donc ils vivent plus en forêt, sont ce qui veut dire qu'effectivement, il faut pas près des municipalités comme ma communauté. Moi, je suis entourée, effectivement, là, de municipalités, là, soit de Robert-Val, de Saint-Prime ou Saint-Lucien. Donc, c'est plus accessible pour les services qu'ils offrent. Mais pour les communautés autochtones, par exemple, de la nation Atikamekw, c'est les communautés qui sont plus isolées, qui demandent plus d'heures pour aller effectivement aller chercher les besoins, soit en matière d'alimentation ou le reste. Mais il reste quand même qu'effectivement, dans les communautés autochtones, la gouvernance n'est pas pareille.
Si je vous demandais d'identifier quels sont les enjeux, qu'est-ce qui fonctionne facilement entre nations et quels sont parfois les écueils?
Ben, je dirais que qu'effectivement qu'il y a un enjeu qui est très important, c'est toute la réalité sociale dans les communautés autochtones. C'est quelque chose qui est préoccupant, autant pour les femmes, autant pour les familles également. Des situations sociales là, dont on voit aussi dans les études, dans les statistiques où la plupart, ou certains jeunes plutôt, où certains jeunes, effectivement, se sont enlevés. Non, j'ai perdu mes mots. Je vais reprendre.
Oui.
Certains jeunes vivent des difficultés d'ordre social, aussi, soit par la consommation ou le suicide. Donc, c'est des enjeux très. Très prenant là, au niveau des communautés autochtones.
Et qui se représentent d'une côté à l'autre. Ça se répète, ces problèmes-là, d'une communauté à l'autre.
C'est des enjeux qui se ressemblent aussi. Puis que, effectivement, je pense que nos élus ou les élus font aussi du gros travail pour travailler sur ces dossiers-là.
Nous sommes avec Marjolaine Étienne, qui nous revient dans quelques instants. Marjolaine?
Nandoamana.
fleuron volant. S'il y en a un qui fait l'unanimité dans toutes les nations autochtones, c'est bien lui. Avec nous, Marjolaine Étienne, qui vient d'être nommée représentante des peuples autochtones du Canada au secrétariat général des Nations Unies, l'aide de Meuchetayache. Rebonjour, Marjolaine.
Rebonjour.
Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui a été cher pour vous depuis vos débuts de l'implication dans les revendications, dans les solutions à trouver dans le monde des Premières Nations. C'est le problème des femmes autochtones.
Oui, effectivement. Je vous dirais que c'est une préoccupation que j'ai encore. Et puis que il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui. Les femmes et puis les familles, c'est vraiment là, quelque chose qui me préoccupe.
Vous avez commencé comment? Comme les premiers éléments d'engagement, de choses pratiques, de ce que vous avez demandé, promu à l'époque, ça ressemblait à quoi? On partait de loin, si je ne m'abuse, avec la situation des femmes autochtones.
Ben, en fait, je vous dirais que pendant ma carrière politique, je reviens toujours sur ma carrière politique parce qu'effectivement, ça fait quand même 15 ans que j'ai été présente dans ce milieu. J'ai quand même fait en sorte, effectivement, là, être celle qui a initié un premier rassemblement là, avec l'ensemble des femmes élues de l'Assemblée des Premières Nations du Québec du Labrador. Donc, à cette époque, on regroupait effectivement près du... Bon, elles étaient à cette époque-là 86 femmes élues, mais les communautés autochtones sont comme un peu là, dispersées là, au niveau de la map là, du Québec. Et puis, je me disais qu'effectivement, étant élue en 2003, tout premier mandat, je me disais, il y a sûrement d'autres femmes qui ont été élues au sein de leur communauté. Et puis, ça a fait son bout de chemin. Et puis, je me suis effectivement là reçue à être en contact avec l'ensemble des familles des Premières Nations du Québec du Labrador pour échanger entre nous sur les difficultés, les enjeux qu'elles ont dans leur responsabilité politique et puis tout le reste. C'était une façon pour nous d'échanger et de discuter là sur les dossiers qu'on comportait là au sein de nos communautés.
Quand vous échangez comme ça, ce qui ressortait comme problème primordiaux là à l'époque, il y a 15 ans, disons, c'était quoi?
Ben, en fait, ce qui s'est dégagé de tout ça, c'est que on a pu effectivement là à l'époque, je siégeais là au Conseil du statut de la femme, et puis on a pu réaliser une recherche-action qui s'appelle Entre nous et vous. Donc, on a pu faire une recherche-action auprès des femmes élues dans les différentes communautés autochtones, que ce soit de la nation Cree, Atikamekw, Innu et puis le reste. Et puis, la conclusion de cette recherche-action-là, c'est qu'elles venaient nous mentionner qu'elles avaient besoin de soutien, d'accompagnement, de formation dans leur domaine de femmes politiciennes. Elles voulaient être encore plus compétentes, c'est apprendre davantage sur qu'est-ce que c'est la politique et puis tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'effectivement, là, que rapidement, là, j'ai mis en place avec d'autres, avec un partenaire qui s'appelle le groupe Femmes politiques et démocratie. On a pu offrir une session de formation pour ces femmes-là. À ce moment-là, donc, dans le domaine de la communication, sur tous les plans-là, les besoins étaient déterminés vraiment par les femmes élues à ce moment-là.
J'imagine qu'il y avait aussi tous les problèmes qu'on peut soupçonner, les problèmes de consommation, mais les problèmes de violence conjugale aussi qui se sont posés. Vous avez touché à ça aussi politiquement?
Oui, il y a cet aspect-là qui est au niveau de réalité sociale dans nos communautés autochtones, mais il y a l'aspect aussi, tout le côté du développement, parce que le développement aussi permet aussi de développer d'autres sphères, dont notamment, effectivement, tout l'aspect de développement économique, où ce qu'on amène, le côté de la formation et puis de l'emploi. Donc, il y a quand même là les programmes et services qui aident et qui soutiennent les membres ou les femmes et leurs familles dans les besoins qu'elles ont besoin. Et puis pour le côté au niveau développement qui touche l'aspect du développement économique, développement de l'économie, est aussi une partie qui est quand même bon pour outiller ou de former les gens qui veulent se serrer sur le marché du travail ici également. Hein.
Quels sont les projets que vous avez défendus ou mis sur pied dont vous êtes encore le plus fier?
Je vous dirais, j'ai déjà pensé, posé une réflexion à savoir, bon, c'est ma carrière politique, tout ça, bon, qu'est-ce que j'ai pu apporter? Il y a un élément que j'ai aimé, c'est vraiment, là, à cette époque-là, c'était la mise sur pied d'un centre de formation professionnelle pour les Autochtones sur les métiers de construction. C'est un projet qui avait été travaillé avec la communauté autochtone des Mohawks à cette époque-là. Je pense que c'est la communauté autochtone de Kanasatake. Et puis, j'ai travaillé ce dossier-là avec le vice-chef, monsieur Kenneth McComber. Et puis, on a travaillé de concert avec la commission de construction du Québec. Donc, c'est un projet qu'on a travaillé. Ça a pris, les projets, ils n'aboutissent pas à demain. C'est un travail qui est quand même assez long. Mais on avait réussi, effectivement, à mettre sur pied ce centre de formation professionnelle pour les Autochtones.
Et spécifiquement pour les femmes, il y avait cette éducation à la politique, si on veut.
Ben, en fait, c'est pas spécifiquement pour les femmes, mais c'était aussi pour ceux et celles qui voulaient se diriger dans les métiers de construction, de pouvoir aller chercher un diplôme et puis pouvoir travailler dans les chantiers de construction qui sont faits au niveau du Québec.
Est-ce que votre communauté à Marcheuillard, chez les Innus, est-ce qu'on reconnaît de façon très ostensible, si on veut, vos mérites pour eux?
Ben, je vous dirais, si c'est une reconnaissance, oui, je pense qu'on nous reconnaît à travers les réalisations qu'on fait, qu'on réalise. C'est une reconnaissance, je pense, que les gens ont. Je pense que oui.
Ben, tant mieux. On continue à causer avec vous, Marjolaine Étienne, après une petite pause, et parce qu'il y a beaucoup de choses dont on aimerait parler avec vous.
Merci.
Vous écoutez Koué, bonjour.
Alexis n'est pas avec nous, Robert Blondin, aujourd'hui tout seul, mais tout seul en très bonne compagnie, puisqu'avec nous, nous avons la joie de recevoir Marjolaine Étienne, représentante des peuples autochtones du Canada, au secrétariat général des Nations Unies. Ce n'est pas rien. Alors, rebonjour, Marjolaine.
Rebonjour.
Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre domaine, dans votre bureau?
Oui, je suis dans ma communauté à Mashtoyas. Je suis directrice générale de la corporation médiatique Tewigan depuis juin dernier.
Et ça se passe bien?
Ça se passe bien. L'intégration va bien. Et puis bon, malgré la pandémie qui touche tout le monde, mais il reste quand même que ça se passe bien.
J'aimerais parler un peu de votre motivation. On va revenir beaucoup plus loin dans votre vie. Vous vous êtes dévoué pendant 15 ans maintenant, disiez-vous, au niveau politique pour les communautés. Mais il y a une motivation à faire ça. Pourquoi vous plutôt qu'une autre? Vous en aviez les talents, c'est absolument évident maintenant. Mais c'était quoi la motivation? Ça venait de votre enfance? Ça venait d'où?
Ça s'est venu, je vous dirais... du côté de mon père qui est décédé depuis un an, là, depuis janvier. Et puis, j'ai été élue une première fois en 2003. Et puis, avant d'être élue, mon père est venu souvent me voir à mon bureau pour me demander effectivement de me lancer en politique. Puis, en dernier lieu, ça devenait quasiment un genre de forme. Il insistait fortement, je vous dirais. Mais à cette époque-là, c'était vraiment pas dans mon intention de me lancer en politique. Je me disais qu'effectivement, bon, c'était pas ma place, puis que bon, je comprenais pas c'était quoi de la politique. Puis finalement, ben, mon père me disait, bon, écoute, sois pas comme tout le monde, tu vas apprendre. Tout ça. Puis bon, finalement, ben, à force d'insister, je me suis dit, bon, Bon, OK. Je vais me lancer candidate aux prochaines élections en 2003.
Pas uniquement pour faire plaisir à papa, parce que vous en sentiez le besoin et la possibilité de le faire.
En fait, je me suis dit, je dis peu importe ce qui va arriver, c'est sûrement que ça va être un non. Moi, dans ma tête, déjà, c'était un non. Il n'y a pas personne qui va presque voter pour moi. C'est ce que je me disais.
Oui.
Mais j'étais surprise encore une fois. Et puis, j'avais quand même rentré là, assez forte. J'étais la première là, de la liste là, des conseillers.
Oh.
Et puis là, elle prenait effectivement là, la prise de conscience là, de dire là, c'est vrai que c'est je suis là. Puis que, mais oui. c'est comme ça.
Vous aviez une fratrie de nombreux frères et sœurs?
J'ai sept frères. J'ai pas sept frères. On est une famille de sept enfants. Je suis l'aînée de la famille. Deux sœurs et puis quatre frères. Donc, avec moi, ça fait sept, et voilà.
Mais c'est une question hypocrite que je vous posais, parce que je me demandais pourquoi votre père vous a choisi, vous, pour vous pousser en politique, parmi les autres.
Mon Dieu, je vous dirais que c'est aussi quelqu'un qui m'a poussé à aller à l'université, aussi également, là, lorsque... Je suis allée, j'ai fini mon secondaire, je suis sortie de la communauté pour aller au secondaire, je suis sortie aussi pour aller au cégep, et puis on va à l'extérieur, effectivement, parce qu'on n'a pas les institutions à l'intérieur des communautés autochtones, ni dans ma communauté, donc je suis partie pour l'université, donc il y a tout ce côté-là, effectivement, qui...
Vous étiez outillé, en fait, intellectuellement pour le faire. Si on venait plus loin encore, dans votre enfance, ça se passait dans la communauté. Est-ce que je me trompe? Ou si à l'époque, ça ne s'appelait pas Marche-Toyache, mais Pointe Bleue, est-ce que c'est vrai?
Oui, exactement. Ça s'appelait Pointe Bleue, oui.
Pointe Bleue, quand vous étiez enfant, ça vivait comment? Vous étiez toujours dans cette... C'est une réserve, là. Vous étiez toujours dans la réserve ou si vous aviez des fréquents contacts à l'extérieur de la réserve?
Non, j'étais toujours en contact dans ma communauté. Avec mes parents, on allait souvent en forêt, pratiquement à chaque saison, pour la saison des bleuets, la saison de la pêche, la saison de chasse et puis le reste. J'ai vécu avec mes parents en forêt. Et puis, j'étais en contact aussi avec les gens de la communauté. C'est beaucoup d'enfants encore aujourd'hui, des trucs communautaires, des rassemblements, et puis tout ça. Oui, j'ai passé une grande partie de ma vie à Massaïa, comme aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, ça n'a pas tellement changé. Hein. Est-ce que la relation, quand je reviens à votre enfance, là, du temps que ça s'appelait Pointe Bleue, là, la relation avec les Blancs à ce moment-là, comme enfant, ça, vous étiez consciente des différences ou des difficultés, je ne sais pas?
Je vous dirais que lorsque j'ai terminé l'école primaire, on devait effectivement poursuivre mes études à l'extérieur, donc intégrer la 7e année, 8e année à Robertval. C'était la municipalité la plus proche. Et puis, en quittant Mastoyac pour aller à Robertval, qui est à peine, je pense, 10 minutes là, à ce moment-ci, il reste que quand même, c'était quand même un autre univers pour moi aussi de pouvoir m'adapter à la ville, parce que quand on est étudiant ou étudiante, on passe la majorité du temps à l'extérieur pour étudier, mais il reste que quand même c'était une adaptation de mon côté pour moi que j'ai trouvé difficile. Il y avait beaucoup effectivement là de discrimination entre les élèves et puis le reste.
Vous l'avez subi personnellement.
Je vous dirais que j'ai peut-être pas subi, mais j'ai vu, effectivement.
Vous avez été témoin, oui.
J'ai été témoin, oui, exactement, de ces choses discriminatoires-là.
Ces discriminations-là, est-ce que être témoin de telles discriminations, est-ce que ça vous a aussi un jour motivé? Et c'est une des raisons pourquoi vous avez accepté de vous engager sur l'invitation de papa?
Probablement que ça... dans ma tête d'enfant ou d'adolescence et puis le reste, ça fait en sorte effectivement que ça a dû germer dedans. Germer en dedans de moi et puis tout l'aspect, tout ça, mais tu sais, ça s'est fait, je dirais, de façon naturelle. Oui, effectivement, en vivant dans ma communauté, j'étais consciente effectivement des problématiques ou des enjeux ou des défis qui s'exposaient à nous. Et puis, bon, tout le côté de l'éducation aussi, d'aller à l'extérieur pour aller étudier. Puis bon, ma mère qui avait vécu tout le système du pensionnat ne voulait pas trop non plus que je parte, que je quitte la communauté pour aller étudier de peur que je subisse le sort qu'elle a subi aussi. Mais il reste que quand même que, bon, en quittant la communauté, ben, ça nous amène effectivement à affronter la société de la population non autochtone. Mais il reste que quand même, j'ai fait mon bout de chemin. Puis effectivement, oui, en cours de route, j'ai subi effectivement de discrimination.
Donnez-nous des exemples de discrimination, des embûches que vous avez rencontrées dans le monde des Blancs, le cégep, l'université ensuite.
Ben, en fait, je vous dirais que le cégep, l'université, c'était quand même pas si pire, parce que je faisais ce que je devais faire. Bon, aller à l'école, étudier, puis le reste. J'avais quand même là des collègues non autochtones aussi. Là, tu sais, je dis pas que tout allait mal, là, mais il reste quand même pour certaines personnes qui probablement n'aimaient pas trop les Autochtones ou par manque de connaissances aussi. Parfois, c'est associé à la manque de connaissances aussi. Il reste que quand même, j'ai fait mon bout de chemin. Puis oui, il y a des exemples que je peux nommer, bon, que j'étais une Autochtone. J'aime pas trop dire des mots parce que je suis pas la seule qui veut rappeler ça, qui pour moi, dans ma tête, pour moi, c'est du passé. Et puis le reste, maintenant, je regarde par en avant. C'est ce que mon père m'a enseigné. Et puis le reste, parce qu'il me disait que dans la vie, on va subir de la discrimination. Il n'y aura pas juste toi. Il y a d'autres personnes qui le subissent. Puis il faut que tu avances avec ça. Puis bon, la seule chose que l'enseignement que mon père me disait, bon, sois fier de ta culture, puis tu sais ce que tu es. Et puis avec ça, ben, tu vas voir que tu vas grandir avec ça. Puis et c'est ce chemin-là qui s'est forgé avec moi.
Les difficultés que vous avez connues avec certaines embûches, une sorte de discrimination dans le milieu blanc, cégep et université, quoi qu'on en dise, est-ce que, d'après vous, ça s'est amélioré beaucoup depuis?
Je dirais, est-ce qu'il y a de l'amélioration à ce moment-ci? Je dirais que c'est en progression, je pense. Aussi, ça progresse. Aussi, il y a peut-être d'autres personnes qui subissent, mais ça, c'est le côté... aussi individuel, hein, puis il y a le côté aussi collectif aussi également. Mais tu sais, ça demande beaucoup là, au jour J, que bon, qu'il n'y ait plus de discrimination, puis que tous les gens bon, se respectent, et bon, il y a de l'harmonie, et puis tout ça. Mais tu sais, c'est un long processus, à mon avis. Et puis je pense qu'effectivement, ça commence par mieux connaître les personnes, les gens. Il y a ça aussi également, là, à mon avis.
Est-ce qu'il n'y a pas, Marjolaine, une tendance aussi qui naît maintenant d'être plus ouvert au milieu autochtone chez les Blancs?
Il y a de l'ouverture. Je dirais, quand j'ai occupé mes fonctions de vice-chef aux affaires extérieures, j'ai été appelée effectivement à côtoyer les municipalités de la région, à avoir des dossiers communs, à travailler sur des dossiers communs aussi également. Puis je vous dirais qu'effectivement que de travailler avec les gens, l'agent politique, là, les municipalités de la région du Lac-Saint-Jean ou Saguenay-Saint-Jean, on a eu quand même là, de bons résultats.
C'est bon signe, tant mieux. On revient dans quelques minutes toujours avec Marjolaine Étienne.
Thank you.
Béatrice Deer, Deer comme dans Chevreuil. Avec nous, Marjolaine Étienne, qui en a lourd sur les épaules. Elle est représentante des peuples autochtones du Canada au secrétariat général des Nations Unies. C'est lourd sur les épaules, Marjolaine?
Vous me faites rire quand c'est lourd. Ben, je vous dirais que non, pas pour le moment, parce que je n'ai pas encore effectivement là, commencé là, à avoir un peu là, à notre première rencontre là, qui est à venir bientôt.
Mais vous représentez donc, tous les Autochtones du Canada, là, ça fait bien du monde là, sur votre dos. Là.
Oui, mais il reste que quand même que c'est des choses que je ne ferais pas ça tout seul. Il y a des choses que je pense qu'effectivement je vais être en contact avec des gens que je connais, que ce soit au niveau du Québec ou au niveau du Canada aussi, pour effectivement voir, pour leur parler du mandat que, du fond. Donc, ça va être important effectivement d'informer là, qu'est-ce que ça va donner le fond pour les peuples autochtones.
Oui, concrètement, on ne sait pas exactement où ça s'en va, là.
Ben, en fait, le fonds va consister effectivement là, à aider les représentantes ou les représentants autochtones, différentes organisations autochtones aussi, du monde entier à participer là, à des réunions aux Nations Unies.
C'est déjà beaucoup.
Bien sûr, c'est beaucoup. C'est une belle tribune aussi pour,
ben,
pour porter les enjeux, pour... faire dénoncer les choses existantes. Je pense que c'est une tribune qui permet aux peuples autochtones de suivre cette voie V-O-I-X et voie V-O-I-E aussi également.
Bien sûr. J'aimerais déboulonner avec vous quelques préjugés, Marjolaine. Quand vous étiez toute jeune, il y avait, je le sais parce que je suis d'âge à avoir vécu de moi-même ces préjugés-là envers les Amérindiens, qu'on n'a pas le droit d'appeler Amérindiens mais Autochtones, je suis au courant. C'est quand même, on apprend aussi avec le temps. Pouvez-vous nous identifier quelques préjugés qu'il y avait il y a 25-30 ans?
Je pourrais peut-être vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'étais à l'école de la cité étudiante, c'était à Robertval, et puis j'étais en secondaire 4, et puis il y a toujours le cours d'histoire là, qui se donnait, et puis bon, je pense que ça faisait quasiment 3 fois là, que je reprenais ce cours d'histoire-là à chaque saison scolaire, et puis le prof qui donnait la matière est venu me voir à un moment donné, puis il me dit, bon, il dit pas vraiment que tu passes... le cours d'histoire, parce que secondaire 5 s'en vient, et puis tout le reste. Hein. Mais en fait, ce que je vous disais, c'est que l'histoire que vous racontez, je me vois pas dedans. Il me semble que c'est pas ça ce que j'entends de par mes parents, mes grands-parents. J'avais probablement à cette époque-là déjà être en partie, là, être une personne qui voulait défendre déjà l'histoire des Autochtones. Et puis... finalement, à force de suivre le cours, troisième année de cours d'histoire, là, je me suis dit, bon, il faut que je le passe si je veux vraiment quitter le secondaire pour aller au cégep et puis le reste. Et finalement, je l'ai passé. Puis, à un moment donné, quand j'étais élue à Mashtoyats, j'étais celle, effectivement, qui accueillait les étudiants et étudiantes de Robertval, non autochtones, à venir à Mashtoyats au bureau politique. Je leur présentais effectivement, bon, qu'est-ce que ça fait un conseil de bande, on est composé de qui, on fait quoi. On expliquait effectivement là, tout l'aspect de la gouvernance, puis bon, on expliquait les programmes et services qu'on avait, ce qui est différent au niveau des municipalités, excusez. Et puis le professeur qui accompagnait les jeunes, on a comme eu un regard en disant, bon, c'est exactement le même professeur qui était en secondaire 4 quand j'allais à l'école, puis qui me dit, là, je comprends, là, ça.
Il était temps.
C'est pourquoi tu ne passais pas ton cours d'histoire?
Il y a de quoi. Il y a des préjugés, je me souviens des préjugés qui étaient très répandus au moment où j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Par exemple, je vais vous les donner crûment, là, que les Indiens, on disait ça comme ça à l'époque, les Indiens supportent pas l'alcool.
Mm-hmm.
C'est vrai, c'est pas vrai?
Écoute, il y a tout un côté scientifique là-dedans, des études, je pense, que j'ai lues comme ça. Je pense que je me dis, c'est à mon avis, là c'est mon humble avis à moi, je me dis, c'est pas tant parce que tu es autochtone, c'est aussi chez les non-autochtones aussi également. Là. C'est partout, c'est pas une question de race, d'après moi, là.
C'est une question d'attitude devant l'alcool plus qu'autre chose. Hein?
D'après moi, tu sais.
Comme pour les Blancs, la même chose.
C'est exactement ce que je vous dis. C'est pas une question de race. Pour moi, c'est pas une question de race.
On va aller un peu de carré bancilla là, pour prendre les choses. J'ai déjà vu, moi, chez les Inuits, par exemple, des solutions de Blancs pour des Autochtones, tu sais, du style leur apporter des maisons préfabriquées qui coûtent une fortune, les ancrer dans le pergélisol et leur reprocher de couper leur phoque sur un plancher de bois franc et les charger des amendes à ce propos-là. J'ai vu des choses absolument... C'est plein d'initiatives blanches pour soi-disant aider les Amérindiens, pour prendre mon défaut, et les Autochtones, mais pour faire de l'argent à des entrepreneurs canadiens blancs. J'ai vu ça abondamment. Ça existe encore, cette affaire-là?
Je vous dirais qu'à ce moment-ci, effectivement, il y a un manque de logement. Hein? Je pense que c'est aussi là, un enjeu très grand là, chez les peuples autochtones, que ce soit chez les Inuits, que ce soit au niveau des peuples autochtones du Canada, au niveau du Québec. C'est vraiment un enjeu. Maintenant, de la façon de la construction est plutôt vrai, si j'ai bien compris votre question, c'est dans ce sens-là, je vous dirais que, du côté au niveau des Inuits, je vous dirais que je suis peut-être plus ou moins là en termes de connaissances, mais je sais qu'effectivement, qu'ils ont besoin criant par rapport au niveau du logement. Ça, c'est certain. Le surpeuplement des Autochtones dans les foyers, c'est quelque chose qui est présent.
Ce que je voulais illustrer, c'est que pendant longtemps, les solutions pour des problèmes autochtones venaient des Blancs et n'étaient pas toujours très bien adaptées aux besoins réels.
Possiblement. On a quand même un côté historique hein, aussi. Il faut aussi évoluer dans le temps, comme tout le monde. Hein. Il y a ça aussi, mais il reste quand même... On conserve encore et on préserve aussi nos façons de vivre en forêt. Hein? C'est encore existant. Donc ça va l'être encore demain.
Avez-vous été confronté parfois à... C'est un épiphénomène, c'est pas immense, mais moi je l'ai beaucoup connu, d'imposteurs, des gens qui arrivent de Belgique, de France ou même d'ici au Canada, et qui tout à coup se prennent pour des Autochtones et revêtent des costumes absolument flamboyants, des plumes qui viennent absolument pas d'ici. Ce genre de personnages-là, il y en a toujours qui courent un peu partout. Je suis pas sûr que ça aide beaucoup la cause autochtone.
Je vous dirais qu'effectivement, on a pu voir dans certaines émissions, je pense à la télé, des opportunistes. Je pense qu'il y en a quand même... partout, je pense, des opportunistes. Il faut juste avoir le flair, je pense, de reconnaître les opportunistes qui sont là. C'est certain. Est-ce que ça aide au niveau de tout ça? Je suis peut-être comme un peu en difficulté de dire, ça aide, ça peut pas aider la cause. C'est certain, mais tu sais, reste quand même, effectivement, c'est des opportunistes
J'ai eu l'occasion, Marjolaine, de travailler avec les Aïda sur la côte ouest, qui sont des artistes absolument exceptionnels. Les plus beaux grands totems sont souvent Aïda, là, dans l'ouest. Mais on a vu déjà des gens, des Blancs en particulier, imiter cet art-là pour en faire une mise en marché absolument vaste et très payante, mais pas vraiment pour les artistes Aïda. Ça existe aussi ailleurs. Je sais qu'à Maria, j'ai vu de l'artisanat qui était copié aussi par d'autres.
Ça existe, effectivement, c'est là, mais tout demeure effectivement dans le droit de propriété intellectuelle ici également, que je pense que les Premières Nations pourraient effectivement faire une reconnaissance dans ce droit de propriété intellectuelle. C'est une démarche à faire.
Maintenant que vous êtes en haut de la pyramide, Marjolaine, veut pas, c'est là que vous êtes, là, Marjolaine Étienne, en haut de la pyramide. Vous êtes à l'ONU, vous allez représenter les peuples autochtones du Canada et par extension les autochtones un peu partout dans le monde. Quand vous rêvez de choses que vous aimeriez y accomplir, ça ressemble à quoi?
Je vous dirais que après réflexion, ce que je souhaite pour ma première année, à conseiller le secrétaire général quant à l'utilisation de ce fonds, je pense qu'effectivement il y a une démarche que je pense faire. C'est effectivement de prendre contact, comme je disais tantôt, avec les organisations autochtones, que ce soit d'ordre politique ou des organisations autochtones au BNL, l'IRS, qui donne un service auprès des Autochtones, de pouvoir les informer sur l'existence de ce fonds qui leur permettrait effectivement d'assister à des sessions aux réunions des Nations Unies.
C'est possible, il y aura des enjeux, des embûches à ça, pensez-vous y arriver?
Je vous dirais que dans la flambée de la pandémie à ce moment-ci, avec tous les médias sociaux, tout le fait d'avoir gardé contact avec le réseau que j'ai créé, ben je pense qu'effectivement qu'on peut se rejoindre là, par les médias sociaux et qui est un moyen de communication aussi. Là.
Marjolaine Étienne, je pense que l'ONU et le secrétaire général ont fait un excellent choix en vous choisissant comme représentante des peuples autochtones du Canada. Vous souhaite la meilleure des chances et vous le méritez tellement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.